au chapitre 26, Matthieu 26, du verset 36 à 46. Matthieu 26, verset 36 à 46. Je voudrais vous parler de la prière évolutive. La prière évolutive. Est-ce que la prière peut évoluer ? Est-ce que nous, on est prêts à évoluer ? Parce que le but de la prière, c'est que nous puissions évoluer, n'est-ce pas ? Et dans ce texte, nous avons un exemple. Certes, c'est un texte qu'on a déjà lu dans bien des circonstances, mais on va le examiner sur un autre point de vue ce soir. Le texte nous dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il s'avança un peu et jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas être entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il quitta et s'éloigna de nouveau, et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Amen. » Alors moi je veux prendre quelques instants pour examiner avec vous la manière où ce moment bien particulier dans la vie de Jésus se passe. On voit Jésus être dans les dernières heures qu'il passe en liberté avec ses disciples. Combien nous pouvons être heureux de retrouver une certaine liberté. Et vous savez, quand on sait qu'à un certain moment, cette liberté nous va être retirée, ce n'est pas évident. Les heures prennent une valeur et un poids différents. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, après avoir pris le temps de fêter la Pâque avec ses disciples, il s'est dirigé vers le jardin de Gethsémané pour un temps de prière. Et en arrivant sur place, il y a un sentiment très fort qui est venu sur lui, qui est la tristesse et l'angoisse. Et là, on peut ensemble retrouver 5 choix que Jésus va faire. Premier choix, c'est un lieu où rien ne peut le distraire. Jésus sait qu'il va se trouver à faire face à une situation bien particulière et au lieu d'aller, excusez-moi, faire la fête, il va choisir un lieu où il n'y a rien qui puisse le distraire parce qu'il veut se préparer au moment qui va s'approcher de plus en plus et c'est le premier choix. Le deuxième choix que Jésus va faire, c'est qu'il va choisir des compagnons d'intercession. Il sait qu'à ce moment, il a besoin aussi de ceux qui sont avec lui. Alors, on pourrait se dire, mais il a mal choisi. Il a choisi des hommes qui se sont endormis. Comment est-il possible ? Je crois que le choix de Jésus va au-delà de ce que nous pouvons lire. Jésus a choisi des hommes qui allaient eux-mêmes un jour se retrouver dans des conditions similaires. Regardez à la manière où la vie a été assez compliquée pour Jacques, pour Jean, pour Pierre. Est-ce que Jésus n'était pas en train de leur donner un peu des points spirituels pour savoir comment faire face dans l'avenir ? Troisième chose, choix de quoi faire quand la tristesse et l'angoisse nous saisissent. On voit que Jésus ne garde pas ça pour lui, pour sembler plus fort aux yeux de ses disciples, mais il partage son fardeau. Il n'a pas de crainte à dire comment les autres vont me juger si je parle de ma tristesse et de mon angoisse. Nous, on a plutôt tendance à parler de quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, on a plutôt tendance à les garder pour nous. Et un autre choix, c'est la position que Jésus va assumer devant Dieu, physique, mais avant tout spirituelle. Il dit le texte que Jésus va se mettre par terre, il va à quelque part se jeter la face contre terre et il va prier. C'est son Père, c'est Dieu. Jésus choisira de se placer dans une position d'humilité, d'attente. Jésus n'est pas en train de parler avec Dieu le Père, excusez-moi, comme s'ils étaient deux copains. Non, c'est le Père. Et il a une attitude de respect, une attitude d'amour, une attitude d'humilité vis-à-vis de ce Dieu grand et merveilleux dont il sait qu'il a besoin du secours. Et il prend une position qui est celle de celui qui se place par terre en disant « Seigneur, j'enlève tout ce qui pourrait être un moyen ou autre, il n'y a que toi, le choix de Christ. » Et le choix de la prière à présenter à Dieu. Merveilleux, hein ? Le choix de sa prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » On va y revenir sur cette prière. Après, la chose qui m'a interpellé, c'est la question de s'entretenir dans la prière plus que dans les paroles. Le texte nous dit que Jésus, il a fait cette prière. On ne sait pas combien de temps s'est passé. Mais il est question pour Jésus de présenter sa prière. Il n'est pas en train de faire tout un long discours. Est-ce que Dieu a besoin d'un long discours pour qu'on puisse le convaincre ? Pas du tout. Perdons, excusez-moi, cette mauvaise habitude que nous avons de vouloir convaincre Dieu. Parce que moi, des fois, je suis tenté de me dire que ce n'est pas vraiment Dieu qu'on veut convaincre. On veut convaincre ceux qui nous écoutent. Mais on peut convaincre ceux qui nous écoutent, mais est-ce que Dieu nous écoute encore ? Vous savez comment il est né le SOS ? SOS, le signal SOS. Il est né la nuit où il y a eu le Titanic qui a coulé. Et au lieu d'écrire un long discours, c'était trois lettres. Un message de dire « Oh Dieu, sauve notre âme ». S.O.S. Ils auraient pu commencer à taper tout un discours. Nous, on est champions dans les discours, dans les phrases. « Oh Père excellent, Dieu tout-puissant, éternel ». Et on fait toute une présentation, après on lui dit comment faire aussi à résoudre le problème qui est le nôtre. Et là, on va s'étaler un tout petit peu plus. Mais là, il est question d'un Seigneur qui fait une prière qui ne va pas se perdre. Et Jésus va dire quelque chose à ses disciples, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et ça m'a interpellé. J'ai trouvé ce texte de Romains chapitre 6, versets 19 à 23. Romains chapitre 6, versets 19 à 23, qui dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Nos faiblesses peuvent nous amener, excusez-moi, très loin de la réalité, de la relation avec Dieu. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors ? Quel fruit portent nos prières aujourd'hui ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus est en train de dire à ses disciples, veillez et prier, car l'esprit est bien disposé, mais il y a un problème, la chair. Alors certes, ça, c'était que le problème des disciples, certainement pas le nôtre, non ? Je ne suis pas certain. Je pense que malheureusement, nous avons, nous aussi, ces mêmes combats. Et nous avons besoin d'autant plus de veiller et de prier afin de ne pas tenter, de pas tomber en tentation, dit la parole de Dieu. Alors la prière évolue quand nous acceptons la volonté de Dieu. Je vous ai parlé de la prière évolutive. Vous avez vu au verset 39, il dit « Puis il s'avança un peu, se jeta à la face contre terre et il prie ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » Première prière de Jésus. La deuxième prière de Jésus, on la retrouve au verset 42. « Mon Père, s'il n'est pas possible. » La première fois, il dit « s'il est possible ». La deuxième fois, c'est « s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Si la première question de Jésus à Dieu le Père est dit « est-ce qu'il est-il possible qu'il y ait une autre solution ?» À la deuxième prière, il dit « puisque ce n'est pas possible, Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et pour moi, je lis une forme d'évolution dans la prière de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand notre cœur évolue avec la prière à la base de la réponse du Seigneur ? C'est qu'à quelque part, on rentre dans l'acceptation de la volonté de Dieu. Mais nous, parfois, on peut commettre l'erreur de nous bloquer sur notre prière dès le départ. « Seigneur, c'est ça que je veux et rien d'autre. » Et vous savez, on n'évolue pas dans notre vie spirituelle parce que c'est nous qui posons à quelque part les limites. Au lieu de se dire « Seigneur, voilà, il y a ça, mais si toi tu as une autre solution, mon Dieu, je m'attends à toi. Seigneur, et puisque toi tu n'as pas voulu cette première situation, puisque tu as fermé les portes à cette première vision qui était la mienne, Seigneur, je te fais confiance. » Au lieu de marteler, de dire « Mais Seigneur, moi c'est ça que je voulais. Seigneur, ça sera ça ou rien d'autre. » Et ça, c'est pour moi l'attitude d'un enfant gâté qui frappe des pieds. Alors je sais que ce n'est pas comme ça que nous on le fait, mais regardons un peu, en prenant auprès d'auteur et en regardant un peu comment nous agissons. Et on voit que la troisième prière que Jésus il va faire, c'est dans ce même sens, presque à dire « Seigneur, puisque je dois aller dans ce sens, que ta volonté soit faite, Seigneur, je compte sur toi. » Vous avez vu que si au départ, au début de cette prière, Jésus, quels étaient les sentiments de Jésus ? L'angoisse et la tristesse. Quels étaient les sentiments de Christ après ce temps de prière ? Est-ce qu'il était encore angoissé ? Ou est-ce que son cœur était dans la pleine confiance de la main de Dieu ? Voyez, l'évolution dans notre manière de prière, dans notre manière de faire, nous permet de faire face aux situations et aux circonstances. Il dit le texte, il s'éloigna une troisième fois en répétant ces paroles. Accepter la volonté de Dieu en comptant sur sa grâce et son secours. Alors, on voit qu'à un certain moment, il y a cette volonté de Dieu de nous amener plus loin. On va faire une deuxième lecture en Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. C'est de nous qu'il est question, n'est-ce pas ? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création, tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes et attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère, et d'autres textes disent concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que diront donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et le texte continue à dire, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Alléluia! Par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé. Et j'aimerais qu'on puisse le dire chacun d'entre nous avec foi. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et c'est ça qui doit animer notre cœur, pas seulement pendant notre prière, mais une fois qu'on a fini de prier. Avoir cette assurance dans notre cœur de dire « Rien ne peut se produire, que Dieu ne le sache pas, que Dieu ne le contrôle pas. Qui est celui qui me libère de toute situation ? C'est Jésus-Christ. Et en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, mais il y a encore les problèmes. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Non. Puisque Christ est avec toi. C'est pas grave. Si lui, il a pu souffrir pour toi, mon frère, ma sœur, et qui t'a estimé digne de souffrir pour lui, alors dis-toi, Seigneur, du reste, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Vous comprenez le sentiment de Christ après? Qui a besoin d'acquérir ce sentiment de la part du Seigneur? Je ne dis pas que les problèmes ont fait semblant de rien parce qu'il n'est pas question pour nous de dire on vit sur une autre planète. Non, les problèmes, ils y sont. Moi, je les occulte pas. Sauf qu'il y a cette paix dans le cœur de dire « Seigneur, c'est plus mon problème. Puisque ce sera fait selon ta volonté, Seigneur. Donc, c'est ton problème. » Alors certes, les mains, les pieds de Jésus ont été percés. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas soutenu? Alors j'aimerais juste terminer parce que il le faut. Jésus revient et retrouve ses disciples endormis. Et il dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Et je pense, frères et sœurs, que quand on prie, quand on laisse Dieu nous amener à évoluer dans notre prière, il y a un moment où on peut rentrer dans le repos de Dieu. Et vous savez, je le disais dimanche au moment de prier avec le groupe de louanges, le mot sabbat veut dire en réalité la signification, une des significations, c'est arrêter de nous occuper de nos affaires pour nous occuper des affaires de Dieu. Et laisser Dieu s'occuper de nos affaires. Et moi, je trouve que quand Dieu s'occupe de mes affaires, c'est beaucoup mieux. Ça marche mieux. Alors, qui voudrait dire au Seigneur, occupe-toi de mes affaires, Seigneur ? Oui ? Par contre, ce n'est pas pour dire, Seigneur, tu t'occupes de mes affaires et moi, je vais... Non ! Seigneur, moi, je veux m'occuper de tes affaires. Et quelles sont les affaires auxquelles Dieu nous appelle ? Adore ton Dieu. Le sabbat n'était pas un jour où les gens pouvaient aller faire la promenade et aller aux Alpilles. Non, non, les kilomètres étaient comptés, les pas étaient comptés. Il n'était même pas question de dire, tiens, on va manger. Non, 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 il fallait cuisiner la veille. Tu réchauffes pas, tu... C'était un moment où la famille se retrouvait et le père de famille avait la responsabilité de redonner à ses enfants les enseignements, les témoignages de ce qui avait été vécu. En peu de paroles, c'est le jour où tu adores ton Dieu. Alors, est-ce que qui aimerait avoir 7 jours de repos sur 7? Mais du repos céleste. Parce que je vois la sœur, elle pense déjà à son jardin, il dit non, c'est pas possible. Je peux pas laisser mon jardin 7 jours. Non, non, non. C'est vraiment de dire, Seigneur, moi, 7 jours sur 7, je veux rentrer dans ton repos. Je vais m'occuper de tes affaires et toi, tu vas t'occuper des miens. Je ne sais pas, Seigneur, va t'envoyer un ange qui va travailler le jardin. Et les tomates, elles vont être bien plus grandes. Amen, on va en manger ensemble. Bonne salade de tomates. Qui a besoin que le Seigneur fasse sa grâce? Qui a besoin de repartir de ce lieu avec le cœur en paix? Alors on va prier ensemble et on va dire, Seigneur, fais-moi évoluer dans ma prière. Aide-moi à comprendre ta volonté, Seigneur, à l'accepter. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et j'ai cette certitude que rien et personne pourra me séparer de ton amour.